Il y a dans l'Évangile, en général, ce qui est écrit et puis ce qui n'est pas écrit, mais qui est tout de même suggéré. Et je voudrais essayer rapidement d'évoquer d'une part ce qui n'est pas écrit, et puis ensuite revenir un peu sur ce qui a été écrit. Matthieu nous dit que Jésus est poussé dans le désert par l'Esprit. C'est donc le fruit de son baptême, du baptême qu'il a reçu. Vous vous rappelez que Jean-Baptiste prêchait un baptême de conversion. Alors, on ne voit pas très bien comment Jésus aurait besoin de conversion. Mais, teshuva, ça veut aussi dire retour. Et finalement, Jésus vient sur les lieux du drame de son peuple. Jésus vient comprendre, entre guillemets, Jésus vient comprendre ce qui s'est passé au désert. Il vient revivre intensément, dans tous les sens du terme, ce qui s'est passé au moment où Dieu voulait faire passer son peuple dans la terre promise. Et donc Jésus arrive, premier jour, et Matthieu nous parle du 40e jour. Et les 38 jours entre les deux, il s'est passé quoi? De quoi Jésus se nourrit-il pendant ces 40 jours ou ces 38 jours? Il nous a donné la réponse, mais c'est peut-être bien de le dire. Eh bien, pendant 38 jours, Jésus se nourrit de la parole de Dieu. La parole de son Père, l'Esprit conduit le Fils au désert qui se nourrit de son Père, de la parole de son Père, qu'il est lui-même du reste. Alors, il peut être intéressant aussi d'un point de vue, en descendant un petit peu, un point de vue moins spirituel, encore que c'est une expérience à faire quand on a faim, de manger quelques chapitres de l'Écriture sainte. C'est une expérience à faire. Je pense que Jésus, enfin je ne pense pas, c'est évident, Jésus va faire l'expérience humaine de la pauvreté. Pas d'habits de rechange. Pas de relation, pas de demeure, pas de nourriture, pas de GPS, pas de Nouveau Testament. Jésus va se nourrir de l'Écriture. Dans les 5 premiers livres de la Bible, il y a 187 chapitres. Ça fait à peu près 5 chapitres par jour. C'est tout à fait comestible. Il est très vraisemblable que Jésus va se nourrir de cette parole qu'il vient accomplir. Et singulièrement, on peut raisonnablement penser qu'il a passé du temps sur le Deutéronome. Parce que le Deutéronome était appelé la loi de Moïse. Nous pensons souvent, nous, que la loi de Moïse, c'était le Pentateuque, 5. Penta, ça veut dire 5, hein? Bon. Oui, sauf qu'au démarrage, le Deutéronome était appelé la loi de Moïse. Et par extension, la loi est devenue les 5 livres. Mais au départ, C'est le testament de Moïse. Et nous qui avons le Nouveau Testament, nous savons que le troisième livre cité le plus dans le Nouveau Testament, c'est le Deutéronome, après les psaumes et le prophète Isaïe. À l'époque où le christianisme se développe, quelques dizaines d'années après Jésus, quelques années après la mort de Jésus, le Deutéronome a une importance considérable. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore tellement lu, sauf dans des monastères. Au moment du christianisme naissant, il est extrêmement important. Alors pourquoi est-il important ? Eh bien, d'abord la loi de Moïse, et puis c'est le livre où il y a le plus souvent écrit « Aujourd'hui ». 70 fois « Aujourd'hui ». C'est le livre de l'actualisation. Jésus est bien venu actualiser l'Écriture, l'accomplir. Aujourd'hui, tout commence aujourd'hui. Ce livre a eu des relectures successives. Vous savez peut-être que les gens savants disent que ces livres n'ont pas été faits en une fois, on en rajoutait, et puis on en rajoutait, et puis on en rajoutait, et puis il y a deux fois écrit dans le Pentateuch, « Tu n'ajouteras rien à ce que j'ai écrit ». C'était la fin. Cette fois-ci, le Deutéronome était clos. Mais, comme nous l'avons entendu il n'y a pas longtemps, les pharisiens rajoutaient des petites choses. Selon la tradition, la loi dit « Vous, vous avez rajouté ». Vous voyez, c'était une école, ce rajout. Et Jésus, lui, vient lire le Deutéronome. C'est un écrit ayant reçu une reconnaissance officielle, comme le dit le deuxième livre des Rois. Et dans ce livre, il y a l'idée d'exclusivité de Dieu. Et le Deutéronome est à la fois le dernier livre du Pentateuque et le premier des Écritures et des prophètes, des psaumes et prophètes, et Ketuvim. Vous voyez, il est très central. Voilà sans doute, on peut augurer, ce que Jésus consommait lorsque le diable s'approche de lui. Il venait de revivre. Alors que venait-il de revivre ? Eh bien ça, pour le coup, ça nous est dit. Il venait revivre l'épreuve de la faim que son peuple a connue. J'ai dit matériel, spirituel, psychologique. Et précisément, il va répondre au diable, « On ne vit pas seulement de pain, mais de la parole. J'en sais quelque chose, c'est ce que je viens de faire. » Tout d'abord, ce pain quotidien qui sera inclus dans le Notre Père. Peut-être même Jésus prépare le Notre Père qui lui sera donné au bon moment, puisque Jésus reçoit tout de son Père. Cette pauvreté absolument totale qui est de toujours tout recevoir du Père à chaque instant. Et puis la deuxième, c'est cette tentation de mettre Dieu à l'épreuve. Nous l'avons entendu. Alors là, il faut peut-être l'éclairer un peu. Vous savez, cette tentation, elle s'est passée à Massa. Dans certaines traductions, on a gardé les mots hébreux. Comme à Massa, où nos pères t'ont tenté, psaume 94e. Massa, ça veut dire tentation, c'est le substantif du verbe nassa. Et on peut imaginer, comme les Hébreux ont l'habitude de donner un nom hébreu à ce qui se passe dans ce lieu. Donc le lieu s'appelle tentation, parce que nos pères t'ont tenté. Et on pourrait imaginer que derrière ce que nous entendons dans le Notre Père, ce ne soit pas tout à fait, même s'il est bien clair que l'Église ne peut pas se tromper, et donc qu'on a raison de dire le Notre Père comme nous le disons, néanmoins, il peut y avoir aussi cette épaisseur spirituelle, ne nous conduit pas à tentation, à ce lieu, il s'est passé quoi ? C'est nous qui t'avons tenté. Ce qui est corroboré par ce que dit Jacques, Dieu ne tente personne. Bien. Mise à l'épreuve de Dieu avec le doute et la méfiance. Et puis la dernière tentation, c'est l'idolâtrie. Là, nous n'avons pas besoin d'un grand dessein, puisqu'il suffit de regarder le monde pour voir ce que ça peut vouloir dire. Alors l'idolâtrie, c'est tout ce qui nous coupe de Dieu. C'est tous ces refus de pauvreté. C'est tous ces mots qui commencent par prévision, préparer, anticiper. Maîtriser, ne pas dépendre de Dieu. C'est encore très actuel. Donc ce Deutéronome, qui est donc la reprise de l'Exode, sous forme d'un testament de Moïse. Jésus prépare sa mission salvatrice par un temps de lectio divina de 38 jours non-stop. Comme Jésus est le nouveau Moïse, cela est rempli de sens. Sa première réponse, l'épreuve du désert. Sa deuxième réponse, l'amour de Dieu. Sa troisième réponse, l'appel à la fidélité. Et ces tentations, le Talmud nous dit que les Hébreux avaient tenté 10 fois Dieu. 2 fois avant à la mer, 2 fois à cause de l'eau, 2 fois à cause de la manne, 2 fois à cause des cailles, 1 fois à cause du veau d'or et 1 fois dans le désert de Paran. Voilà ce que Jésus vient vivre. Ainsi, Jésus accomplit pour nous le Deutéronome. Il entre en terre promise où les anges viennent le servir. On raconte, toujours dans le Talmud, que quand les Égyptiens ont traversé la mer en sortant de l'Égypte, quand ils avaient besoin de quelque chose, ils tendaient la main et hop, un arbre surgissait de la mer avec un fruit. Cela fait tout à fait penser à ça. Le diable s'en va, un ange s'en va, les autres arrivent. Oui, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Les anges le servent, il est arrivé en terre promise. C'est le passage de la mer Rouge. Et cette récurrence de ce mot « aujourd'hui » dont j'ai parlé, nous fait prendre conscience que Jésus est notre aujourd'hui. Il est tout le temps présent, il est tout le temps avec nous, il est tout le temps là. Il actualise tout le temps. L'Eucharistie qui va être célébrée, la consécration qui va faire de ce pain le corps du Christ, ça n'est pas quelque chose de plus. C'est nous qui allons nous retrouver au sacrifice. Il n'y en a qu'un et il est réactualisé, ce qui veut dire que c'est aujourd'hui la Pâque. Entrons dans cette action de grâce de Jésus qui s'est incarné jusqu'à connaître notre détresse de pauvreté, qui s'est incarné jusqu'à revisiter l'histoire de son peuple dans le désert, même si ce n'était pas tout à fait le même et que ça a été un peu condensé. Voilà, rendons grâce. Amen.